La revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Guillaume.
Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin au Kenya pour une élection présidentielle contestée jusqu'au bout.
Élection bis repetita puisqu'au mois d'août, le résultat à la victoire du sortant Uhuru Kenyatta avait été annulé par la Cour suprême kenyane à cause de graves irrégularités dans le décompte des voix. Alors fallait-il organiser un nouveau scrutin? Et ce alors qu'aucun des dysfonctionnements constatés dans la commission électorale n'ont été réglés et alors que l'opposant Raila Odinga a refusé d'y participer. Les avis divergeaient ces dernières heures encore dans la presse internationale. À Nairobi, le Standard dans son éditorial reconnaît que le pays depuis août traverse sa pire crise politique, que le spectre d'une explosion de violence post-électorale comme celle qui avait fait plus de 1200 morts en 2007 est plus que jamais présent. Le constat est amer, on est passé en quelques semaines de la fierté pour la jeune démocratie kenyane à un rejet de ses dirigeants politiques, incapables de sortir de leur rivalité pour discuter et sauver les institutions, à tel point, nous dit le journal, que de nombreux Kenyans ne verraient pas d'un mauvais œil qu'on cesse tout bonnement ces mascarades d'électeurs. Comment tenir un vrai scrutin quand un candidat qui a récolté plus de 6 millions de voix, l'opposant Odinga, refuse de concourir à nouveau, se demande le Standard. Dans les pages opinion du Washington Post, l'avocat spécialisé dans les droits de l'homme au Kenya, Maina Kiyai, défend lui le choix d'Odinga. Il rappelle que ce sont les mêmes personnes incapables d'assurer au mois d'août un vote honnête et équitable qui organisent à nouveau le scrutin d'aujourd'hui. Kiyai rappelle tout de même que plusieurs membres de cette commission électorale ont démissionné. L'un d'eux a même fui à l'étranger par peur pour sa vie. L'élection d'aujourd'hui n'aurait pas dû avoir lieu dans ces conditions, conclut-il. Ce dont le Kenya a besoin, c'est de temps, que les deux camps adverses négocient vraiment. Oui, mais voilà, les Américains, les Européens et l'Union africaine voulaient une élection à tout prix. Pour Maina Kiyai, c'est clair, ils porteront une responsabilité dans ce qui va se passer à présent au Kenya.
Et puis en Chine, Camille, ce n'est pas l'âge du capitaine qui pose problème, c'est plutôt l'âge de ses lieutenants.
Dans le rôle du capitaine, vous l'aurez compris, le président Xi Jinping, plébiscité hier par le 19e congrès du Parti communiste chinois pour un second mandat de 5 ans. Ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Et dans celui donc des lieutenants, ces 6 hommes, 6 vénérables cadres du parti, très solennellement présentés hier par Xi en personne sur le tapis rouge du Palais du Peuple de Pékin, comme les 6 nouveaux membres du comité permanent du Politburo. Et c'est bien l'âge de ces 6 hommes qui a fait l'objet du plus de commentaires. Aucun n'a moins de 60 ans. Et comme nous l'explique la Nikkei Asian Review, cité par le Courrier International, aucun n'est assez jeune pour pouvoir prendre la succession de Xi dans 5 ans. L'homme fort du parti s'est donc bien gardé de désigner un successeur. Et à partir de là, l'analyse qui est la plus reprise dans la presse, c'est que Xi Jinping compte bien rester au pouvoir en Chine bien au-delà de 2022. Le New York Times, lui, cite des experts de la politique chinoise pour qui cela ouvre une période de troubles politiques, le risque d'un culte de la personnalité accru autour de celui qui a été érigé cette semaine au même niveau que Mao Tse-tung dans le manifeste du Parti communiste chinois. C'est un signal dangereux, selon le sinologue Willy Wolap Lam, cité par l'Apple Daily de Hong Kong. Lui critique le fait que Xi, désireux de devenir un empereur immortel, a fait voler en éclats les règles fixées par Deng Xiaoping et destinées à éviter justement le culte de la personnalité. Il s'agit d'un grand retour en arrière du système politique chinois, analyse Lam. Comme à l'époque de Mao, si le numéro 1 fait une erreur, personne ne pourra la rattraper.
Et on termine, Camille, avec cette date attendue depuis 1992 par les amateurs d'histoire et les complotistes de tout poil aux États-Unis.
26 octobre 2017, soit aujourd'hui, c'est la date limite pour l'ouverture des archives classées sur la mort de John Fitzgerald Kennedy en 1963 à Dallas. C'est une loi signée par George Bush père qui avait fixé cette échéance il y a donc 25 ans. Et cette fois, on y est. Tout le monde est très excité, d'autant que Donald Trump y est allé hier de sa petite phrase. Il a dit que le contenu des documents déclassifiés est « so interesting ». Mais finalement, qu'en attendent les vrais historiens qui travaillent sur le meurtre de Dallas? Le Chronicle of Higher Education américain leur a posé la question. Et là, je vais peut-être vous décevoir, Guillaume, mais ils ne croient pas vraiment à trouver dans ces milliers de pages déclassifiées la réponse à la question que tout le monde se pose depuis 54 ans. Qui a tué le président Kennedy? Au mieux trouveront-ils des éléments de contexte, mais selon un chercheur canadien, il faut s'attendre à ce que les vraies preuves aient été expurgées en plus de 50 ans. À défaut de trouver la vérité avec un grand V dans ce déballage d'archives, on le voit. En tout cas, on trouvera de quoi alimenter pour quelques décennies encore les théories complotistes.